Tropic FM.
Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, je reçois au téléphone l'artiste de la semaine sur notre antenne, le larron, Laurent. Bonjour.
Salut.
Alors, j'ai pas parlé de parisien, car tu habites à Paris. T'es un vrai parigo ou t'es un émigré de la province?
Oh, je suis un sale émigré, moi.
Et puis un émigré de plutôt du coin, non, il paraît?
Alors, ouais, enfin, mes origines sont pas loin de chez vous, ouais. Ma grand-mère, elle habite à Saint-Étienne, sur Chalaronne.
D'accord.
Donc, un tout petit bled, là, près de Saint-Didier, et puis après, moi, j'ai grandi dans le sud-est.
D'accord.
Voilà.
Voilà. Alors,
je suis parisien pour raisons professionnelles, principalement, et assez envie de me barrer, de retourner dans notre belle province.
Ah, pas forcément dans l'Ain?
Pas sûr que ça soit dans l'Ain, non, mais... plus pour des raisons professionnelles que affectives, mais
ouais.
Voilà, faut arriver à bouffer un peu dans la musique. Je suis pas sûr que dans l'Ain j'arrive à faire mon intermittence tous les ans, mais
y en a qui arrivent.
Hein, ah bah, bien.
Ah ouais, et puis en plus on y mange tellement mieux qu'à Paris.
C'est clair. Hein, et puis les prix de l'immobilier est un tout petit peu plus bas.
Oui, quoi que. Alors, toi, Laurent, depuis quand as-tu plongé dans la marmite de la musique et de la chanson en particulier? Tes études ne te destinaient pas forcément à embrasser la carrière d'artiste?
Moi, je suis tombé tout petit dans la musique. C'est un truc qui s'explique pas. Après, un parcours classique, quoi. Je me suis retrouvé avec des leçons de piano parce que cette génération post-dolto, il fallait qu'on fasse judo, piano ou je sais plus quoi, ou tennis. Donc moi j'ai eu droit au piano, il y en avait un à la maison, et j'ai détesté ça. J'en ai fait 3-4 ans, et puis j'ai été tellement insupportable que j'ai réussi à arrêter. Et du jour où j'ai arrêté les cours de piano, j'ai jamais arrêté de faire de la musique.
Mm-hmm.
Donc j'avais, je sais pas quoi, 8-9 ans.
Ouais.
Donc la musique ça m'a jamais trop lâché, et après oui, j'ai eu un parcours, j'ai fait des études un peu sérieuses et tout.
Mm-hmm.
Parce que mon père m'avait dit passe ton bac d'abord, ce qui est normal. Et donc j'ai continué mes études, mais j'ai jamais vraiment arrêté de faire de la musique à assez haute dose.
Ouais.
Et puis voilà, de groupe lycéen, groupe étudiant, de groupe étudiant en jeune groupe, en projet, en machin. J'ai écrit pour les uns, pour les autres. J'ai commencé à jouer pour les uns, pour les autres. Et puis, et ben petit à petit, j'ai fait mon trou.
Ouais.
Jusqu'à ce qu'un jour, je décide de chanter moi-même mes petites chansons.
Mmh. Alors, après de brillantes études et un emploi dans une maison de disques, tu as quitté donc ce poste pour te lancer dans une carrière artistique incertaine, comme dirait un certain Bruno Caliccioli. C'est uniquement pour des raisons musicales ou ta façon de concevoir la carrière d'un artiste ne te convenait pas forcément?
Ben, moi, bon, c'est pas simple de faire son trou et de vivre de la musique, surtout en ce moment, ça devient de plus en plus difficile, puisque l'industrie du disque étant dans une merde noire totale, on a quand même malgré tout de moins en moins de revenus, donc c'est pas simple de boucler les fins de mois toujours en étant musicien. Et surtout quand on démarre, donc moi au début, comme j'avais pas les moyens de boucler, puis que je suis pas né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, il fallait bien gagner la croûte. Donc j'ai commencé à chercher un boulot, et c'est vrai que vu que j'avais fait des études, j'ai réussi à rentrer dans une maison de disques. Je me suis dit que c'était peut-être pas idiot d'aller traîner là-bas plutôt que d'aller traîner dans un truc qui avait aucun rapport, et que j'y apprendrais peut-être des choses qui pourraient me servir plus tard dans mes envies musiciennes. Et c'est vrai que c'était super. En plus, j'étais dans un label qui s'appelait Labels, qui n'existe plus, qui était un endroit magnifique où on avait un catalogue extraordinaire,
ouais,
qu'on distribuait. Mmh. Enfin, en artistes français, il y avait Daft Punk, Yann Tiersen, Kali,
Dominica,
Murat, Sergent Garcia,
Dominica
ouais, ouais. Donc c'était quand même un catalogue pas dégueulasse.
Ouais.
Et puis en internationaux, moi je bossais beaucoup avec les Anglais, on avait tous les labels Beggars Banquet, 4AD, Domino,
ouais.
Donc des artistes comme Depeche Mode, Prodigy, Two Wall of Sound, on avait The Bees, on avait...
Divine Comedy peut-être aussi, non?
Divine Comedy, on avait un nombre de gens d'un talent fou, donc c'est vrai que c'était très agréable de travailler avec ces gens-là.
Ouais.
Et puis c'est parti en autre boudin parce que cette industrie du disque marche sur la tête depuis 15 ans. Donc de fusion en fusion, moi je suis parti au moment de la fusion d'EMI avec Virgin, où ils se sont mis à virer tout le monde, à faire n'importe quoi. et où j'avais l'impression que ça marchait sur la tête. Et j'ai dit, bah, voilà, moi j'avais pris ça pour gagner ma vie et découvrir un peu le métier de la musique. Et puis quand c'est devenu trop désagréable, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on était en train de massacrer les carrières d'artistes plutôt que de les aider à se développer, j'ai dit, bah, écoutez, moi j'arrête et je vais faire plus de la musique. Enfin, je vais essayer en tout cas.
Alors, entre ton départ de chez Labels et la sortie de ton premier album éponyme, il s'est écoulé quand même plusieurs années. Tu as parfait tes gammes en tant que musicien ou compositeur avec Mademoiselle Rose. Et pour d'autres artistes que l'on connaît bien, hein, David Le Gall, alias le Comte de Fourques.
Ouais, copain.
Voilà, Ridan ou Jane Birkin, par exemple.
Voilà.
Tes premières chansons n'étaient pas prêtes à subir les studios d'enregistrement ou tu manquais de moyens pour mener à bien ce projet?
Non, moi au départ, j'étais même pas un chanteur. Moi, j'étais surtout musicien, instrumentiste, claviériste, bassiste. Donc j'ai joué avec d'autres et puis j'écrivais des chansons que j'ai proposées à d'autres. C'est pour ça que j'avais monté ce duo avec Mademoiselle Rose, qui était une jeune fille, une très chouette chanteuse avec laquelle on a été découverte au Franco, donc ça se passait pas mal. Et puis à un moment, moi, je me suis mis à écrire des choses de plus en plus personnelles, qui étaient de moins en moins faciles à chanter pour d'autres et à donner à d'autres. Et j'avais ces chansons qui restaient dans le cahier, donc ça m'embêtait un peu de... Moi, je les trouvais bien, ces chansons, donc ça m'embêtait qu'elles restent dans le cahier. Donc je me suis dit, puisque j'ai un studio depuis longtemps, parce que dans mon boulot pour les autres, j'en ai besoin, je me suis dit, tiens, je vais au moins les maqueter en les chantant, même si je les chante mal. Au pire, ça me permettra de les donner à un éditeur ou à quelqu'un qui pourra les refourguer à quelqu'un d'autre. Et puis, y a des gens qui sont tombés dessus, puis qui m'ont dit, mais c'est pas mal quand tu chantes, en fait... Donc j'ai pris quelques cours de chant, j'ai essayé d'améliorer un peu ça, et puis je me suis lancé, j'ai croisé un mec admirable, Jérôme Poulouin, qui est le patron du studio Pigalle à Paris, qui est un très très beau studio, qui a plus de 50 ans, où on enregistrait déjà Ferré en son temps, qui m'a dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais, donc si tu veux, je t'ouvre le studio gratuitement quelques jours pour venir essayer des choses, et puis on a essayé, puis ça a donné... un premier album du Larron fait avec les moyens du bord, avec des copains qui passaient quand ils pouvaient, avec 3 francs 6 sous, et puis même pas fini, il y a un autre garçon admirable qui s'appelle André Joff, qui était le patron à l'époque d'un distributeur qui s'appelle Anticraft, qu'un copain, Olivier Slabiak des Yeux Noirs, que vous connaissez peut-être aussi, lui avait fait passer mes enregistrements. Et puis il m'appelle un jour et puis il me dit, écoute... il y a un truc là, c'est que j'ai récupéré ton disque par Olivier et je l'ai mis dans ma voiture et depuis ma fille de 12 ans me casse les couilles tous les soirs pour l'écouter en rentrant de l'école. Et il me dit du coup j'ai décidé que j'allais te sortir ton disque et te le signer. Donc devant un argument d'une telle aussi implacable, j'ai pas pu refuser, j'ai dit écoute, allons-y. Donc je me suis retrouvé, sans faire trop exprès, en fait, avec un album qui sortait, puis du coup, fallait monter un live, il fallait faire tout ce qu'il y avait autour, et c'était assez enthousiasmant, alors on y allait.
Ouais. Alors ton nom de scène, c'est le Larron. La définition du Larron n'est pas à ton avantage, moi je dirais. Voleur de grand chemin, pillard, brigand, escroc, mercenaire, malfaiteur. Alors sans compter les expressions contenant le Larron, le troisième Larron, l'occasion fait le Larron, s'entendre comme Larron en foire. C'est également un terme d'imprimerie ou de librairie. Alors, ça dénote un certain humour chez toi et une impression que tu ne te prends pas trop au sérieux, je me trompe.
Oui, en fait, ce nom-là, moi, c'est un nom que j'ai pas choisi, qui m'a été donné... Ah. J'aime bien les cadeaux de la vie comme ça, comme le fait que ce disque soit sorti sans que je me sois trop battu pour le faire. Mais le Larron, c'est une histoire idiote. Il y a au moins 10 ou 15 ans, j'avais un copain qui avait une femme de ménage portugaise qui parlait pas très bien français. Puis j'ai essayé de le joindre un jour et je suis tombé sur la femme de ménage, il était pas là. Et j'ai dit à la femme de ménage, est-ce que vous pouvez lui dire que Laurent a appelé? Parce que je m'appelle Laurent. Et donc elle lui a transmis le message, le Larron a appelé. Parce qu'elle n'avait pas bien compris, puis elle parlait pas très bien français. Et du coup, c'est resté dans la bande de potes, donc j'ai commencé à avoir ce surnom du Larron. Et voilà, au moment de sortir le disque, je me disais, tiens, je le fais sous quel nom? Et puis celui-là est ressorti, et je trouvais que ça collait bien au projet, ouais.
Alors donc tu t'es laissé dans l'écriture, l'enregistrement et la production donc de ton premier album, tu le disais. Le résultat de tout ce travail terminé en 2008, c'est la sortie donc le 27 avril, tu le dis aussi, 2009 par contre, de ton premier album éponyme, comme on dit chez les pros. Alors enregistrer un album, c'est bien, le commercialiser c'est autre chose. C'est pas un peu frustrant d'attendre aussi longtemps avant de pouvoir partager ton travail avec le public? Parce qu'il était fini en 2008 ton album.
Ouais, bah c'est long, mais c'est toujours très long, hein, même quand tu travailles. Moi je l'ai sorti en indépendant, du coup, parce que je me suis retrouvé avec une proposition d'un distributeur. Donc j'ai, voilà, j'ai géré un peu moins la sortie comme un. J'ai monté mon propre label et j'en suis très heureux, parce que vive l'indépendance et vive l'artisanat. Donc je suis pas chez Universal, ni chez Warner, ni chez tous ces gens-là. Je suis chez moi, voilà. Et j'en suis très heureux, donc c'est de l'artisanat et c'est très bien. Donc du coup, ben, j'ai pas les moyens qu'ils ont non plus, donc ça prend du temps, c'est vrai. Mais le temps, c'est le vrai luxe qu'on peut avoir, et puis du coup, ben, je pilote un peu les choses comme j'ai envie. Alors oui, ça va peut-être moins vite, oui, c'est frustrant, mais d'un autre côté aussi, je suis pas à la merci de, comme mon ami le comte de Fogg dont on parlait tout à l'heure, de fusion entre maisons de disques ou de décision d'actionnaires imbéciles qui, pour des raisons d'optimisation comptable ou autre, décident de virer des artistes du jour au lendemain sans jamais avoir écouté leur musique ou sans même être capable de la comprendre. Et ce qu'on voit toute la journée, je veux dire, Dominica qui s'est fait virer de chez Virgin, le comte de Fogg qui s'est fait virer de chez V2, c'est tout le temps pour des raisons comptables ou financières ou boursières, jamais pour des raisons artistiques valables.
Ouais.
Donc j'ai cette chance, en étant indépendant, j'ai plein d'inconvénients, c'est que personne fait des gros chèques à ma place pour acheter des campagnes de pub pour faire vendre mon disque. Par contre, je vais continuer à vous casser les pieds longtemps parce que personne ne va me virer.
Mais nous, tu ne nous casses pas les pieds, enfin, pas encore. Alors tout à l'heure, je parlais d'humour, il est présent, ou presque, à travers les 9 chansons que tu proposes. Alors, lorsqu'on ouvre le livret, on a une petite idée déjà sur la question, et ça se confirme dès la première écoute. Alors, outre ton nom de scène, Laron, c'est ta façon à toi de ne pas te prendre trop au sérieux, ou tu es comme ça dans la vie?
Non, j'ai surtout pas envie de donner de leçons. C'est je trouve, insupportable, les donneurs de leçons, et en même temps, j'ai pas envie non plus, et je sais pas faire, chanter des chansons d'amour où tout se passe bien, je sais pas faire. Moi, il faut que ça coince, il faut qu'il y ait un truc un peu bizarre qui se passe. Donc du coup, voilà, il y a une forme de cynisme, une forme de second degré, il y a de l'humour en noir, parce que c'est une manière de mettre le doigt là où ça fait mal, sans non plus donner de leçons. Il faut s'inclure dans... On a une société qui est bien compliquée, qui marche bien sur la tête, et puis en même temps, on en fait partie, c'est un peu de notre faute aussi, donc... Je préfère m'inclure dans la critique et avoir ce regard un peu cynique sur la question pour en même temps dénoncer des choses et puis raconter des choses avec humour. Et puis après, quand on traite de sujets, moi, j'ai pas envie de parler de rien dans mes chansons, j'ai pas envie de faire de la poésie rudimentaire, donc j'essaie que ça parle de quelque chose et que ça donne quelque chose aux gens. Donc quand je fais une chanson sur le sida, par exemple, qui est dans cet album, qui est un thème dur, si je commence à dire le sida c'est vilain ou vous allez l'attraper, faites gaffe, ça, le message peut pas passer parce que les gens se carapacent, c'est obligé, c'est dur d'entendre des choses comme ça, donc le fait de le prendre en décalé avec humour, donc le sida, moi je le compare à un jeu de loterie, à un jeu de la Française des Jeux, en disant que c'est un jeu facile et pas cher, il y a qu'à tirer en laissant le hasard faire, de prendre un axe décalé comme ça fait rire les gens, donc les gens viennent. Donc les gens écoutent la chanson jusqu'au bout, donc ils entendent tout ce que j'ai à dire, et je pense qu'au final le message passe. C'est-à-dire que oui, il y a 14 000 nouvelles contaminations par jour. C'est dit dans la chanson, si juste je le dis avec un air pompeux et triste en disant faites gaffe, les gens l'entendront pas. Si je le dis en déconnant, en disant vous voyez, vous avez une chance de gagner, ben je pense que ça marche mieux.
Donc il y a une histoire que tu racontes et puis qui sent le vécu à planer, hein, c'est abstinence ou paternité. T'as vraiment dû subir un chantage ou tu romances un peu?
Oh bah c'est une histoire vraie.
Ouais. Donc tu romances.
Qui est un amalgame de plusieurs histoires que j'ai vues autour de moi, mais c'est un truc qui a vraiment existé. Je pense que ça existe assez régulièrement. Les femmes ont quand même une horloge biologique qui à un moment vient les titiller, puis les mecs ont une capacité à se défiler assez incommensurable, donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de nanas qui à un moment ont dit à leur mec, bon ben maintenant moi je veux un môme. Alors bon, c'est pas obligatoirement comme ça, parce que moi c'est évidemment raconté pour que ça soit aussi amusant et un peu déconnant. Moi ça finit avec la nana qui dit, écoute, j'arrête la pilule, maintenant tu te démerdes, c'est soit tu fais plus l'amour, soit tu vas être père bientôt. Et voilà, mais oui, c'est du vécu, je pense. Ouais. C'est après, moi, évidemment, elle me l'a pas présenté comme ça, mais à un moment, elle m'a fait comprendre que bon,
voilà,
faut peut-être s'y mettre, quoi.
Alors justement, on retrouve les joies de la paternité dans la chanson Les Prénoms. Alors, quel parent n'a pas connu à ces périodes où les nouveau-nés pleurent sans raison et puis très longtemps, souvent en début de soirée d'ailleurs.
Ah ouais, c'est insupportable.
C'est horrible. Alors, comment aurais-tu appelé ta fille dans ces longs moments de solitude? Margaret, Rachida, Bernadette?
Ouais, j'avais regardé. En fait, au début, j'avais fait une chanson qui était beaucoup plus longue que celle-là, parce que là, c'est vraiment un truc qui fait 30 secondes, qui est très court.
Ouais.
Le bébé est tellement énervant, il a hurlé que, en gros, les prénoms qu'on lui choisit, c'est Oussama, que des noms de dictateurs horribles.
Puis c'est un garçon en plus.
Et c'est un garçon. Voilà. Et j'avais fait une liste aussi avec des femmes. Alors c'est plus dur de trouver des femmes horribles. Ouais, il y avait Margaret, je sais plus qui il y avait. Mais bon, finalement, comme c'était quand même un concept un peu léger, j'ai préféré en faire juste 30 secondes en déconnant avec un ukulélé. C'était plus marrant plutôt que d'en faire une vraie chanson longue. Mais par contre, en nom de dictateur mec, je pouvais faire 17 couplets, je pense. Et ils ont tous des noms assez hallucinants. Et il y a juste Boutros, je trouve qu'il est super en nom de mec plutôt sympa, que je donnerai jamais un marmot.
Alors sur scène, comme Michel Berger, tu joues du piano debout, puisque tu joues d'un drôle d'instrument à cheval entre le piano et l'accordéon. Tu trouves des ressemblances entre toi et le pianiste que France Gall présente en chanson?
Alors moi j'aime pas du tout Michel Berger en tant que, enfin ses chansons, je suis pas fan du tout. Après je respecte profondément, c'est quelqu'un qui a écrit très belles chansons, mais je suis assez peu client moi de cette pop française, voilà, avec tout plein d'héritiers. Je suis beaucoup plus ce côté Renaud, Brassens, Brel que le côté Michel Berger, Goldman, et voilà, mais ce sens qui est de mépris de ma part. Hein. C'est,
oui.
c'est un mec qui avait un sens de la mélodie et qui jouait de 50 instruments, enfin qui était un vrai mec très très doué, mais moi ça me touche assez peu. Mais non, après moi l'histoire de cet instrument, c'est comme j'ai été instrumentiste pour d'autres, j'ai quand même pas mal pratiqué la scène assis derrière un clavier, et c'est un côté assez frustrant, alors notamment quand après on devient chanteur, on devient leader, le fait d'être assis déjà c'est une dynamique un peu molle. Et puis un piano, c'est un meuble qui coupe pas mal du public, quoi. Quand on est derrière un piano, on est quand même un peu caché, on est un peu protégé, et j'avais pas vraiment envie de ça. Moi j'ai envie que ça bouge un peu et d'avoir un contact assez direct avec le public, donc je cherchais un moyen de pouvoir quand même jouer de cet instrument qui est mon instrument de prédilection, qui est le piano, donc les instruments, enfin tous les instruments à clavier de manière générale, les orgues, les Fender Rhodes, tout ça, tout en étant debout, ou on est en tout cas en pouvant bouger. Donc il y avait quelques solutions. Moi l'accordéon, je sais pas en jouer, puis je suis pas un super fan. Le clavier guitare, je trouvais ça très très connoté Jean-Michel Jarre, donc pas trop mon truc. Et en fait c'est en découvrant des jeunes artistes, là il y a toute une génération de contrebassistes chanteurs, les Humbert, les Fantasio, tous ces gens là qui sont des mecs vraiment super. Et en voyant ces gens-là sur scène, je me suis dit, mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est sensuel cette contrebasse, et qu'est-ce que c'est sympa. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi on peut pas mettre un piano à la verticale debout sur un pied comme une contrebasse? Et donc, ben voilà, j'ai bricolé, j'ai regardé, j'ai essayé de fabriquer un truc, et puis ça marche super bien. Enfin, c'est très très agréable à jouer, et il y a une dynamique sur scène qui est très agréable. Donc voilà, j'ai un contre-piano sur scène, un espèce de piano sur un pied.
Bien. Eh ben merci. Laurent, alias Le Larron, hein, d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Ben merci à vous.
Alors, rappelons que ton premier album éponyme, comme on dit chez les pros, est sorti depuis le 27 avril 2009. Et on peut se le procurer un peu partout?
Normalement, il est dans toutes les bonnes crèmeries. Maintenant, peut-être qu'il est épuisé dans certains endroits, mais n'hésitez pas à le commander ou sur Internet. Enfin, oui, il est sorti. Normalement, dans la FNAC, les FNAC et tous les magasins de disques, vous pouvez le trouver.
D'accord. Et on te retrouve sur Internet via ton site, hein, www.lelarron.com.
Tout à fait.
Hein. Et puis, le plus important pour nous, tu seras dans ta région d'origine ou presque, puisque tu seras avec tes musiciens au Festival Musical Flow au Centre Culturel du Château de Salvaire à Attignat, dans l'Ain, le vendredi 10 septembre 2010.
Et voilà.
Voilà.
Avec beaucoup de plaisir.
Tu iras faire un tour du côté de Saint-Étienne-sur-Chalaronne, non?
Ah ben grave, je pense que ma grand-mère sera là de toute façon.
Ah, d'accord.
Et ben alors... Faudra pas déconner sur scène, hein. Faudra pas dire des gros mots. Hein.
Pas trop. Laurent, bonne continuation.
Très bien.
Bon concert, à vendredi prochain dans l'Ain, et puis à bientôt sur Tropic FM.
À bientôt, merci.
Salut.
Au revoir.